Voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, méditons ensemble sur le verset 261 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Boroumand vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset prône la largesse qui est bien récompensée par Dieu.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Il est de ceux qui font largesse de leurs biens dans le sentier de Dieu, comme d'un grain d'où naissent sept épis à 100 grains l'épi, car Dieu multiplie en faveur de qui il veut. Dieu est immense, il sait.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur les ondes de la radio francophone iranienne en ce vendredi 17 février 2023, le 28 Bahman 1401 du calendrier persan. Nous allons vous présenter notre bulletin d'information suivi d'un commentaire politique qui porte sur un important discours du secrétaire général du Hezbollah libanais. Restez avec nous. Téhéran continue à faire avancer son programme nucléaire pacifique, affirme le porte-parole de la diplomatie iranienne. L'Iran et la Chine appellent à la mise en œuvre du PGAC et la levée véritable des sanctions. Et quatre ministres européens des Affaires étrangères dénoncent la décision d'Israël sur l'expansion des colonies de peuplement en Cisjordanie occupée. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici les détails. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a réagi aux allégations infondées des États-Unis et des membres du Conseil de coopération du Golfe Persique, ayant accusé la République islamique d'Iran de soutenir le terrorisme et de déstabiliser la région. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a rejeté le contenu du communiqué de la troisième réunion du groupe de travail conjoint des États-Unis et du CCGP concernant la République islamique d'Iran et a estimé que la publication de tels communiqués s'inscrit dans le cadre de la stratégie antérieure menée par les États-Unis pour susciter la division entre les pays de la région. Le responsable iranien a balayé d'un revers de main les accusations répétitives et fastidieuses figurant dans le communiqué avant de poursuivre que la vente d'armes et de munitions à hauteur de plusieurs milliards de dollars par les États-Unis aux pays de la région, le soutien au terrorisme takfiri, ainsi qu'un soutien total et constant aux crimes du régime sioniste contre le peuple opprimé de la Palestine, sans oublier la contribution de Washington à la guerre dévastatrice de plusieurs années contre la nation yéménite, constitue autant de retombées des politiques destructrices et interventionnistes de ce pays au Moyen-Orient et dans le Golfe Persique, déstabilisant ainsi la région. La République islamique d'Iran, a-t-il poursuivi, croit en la diplomatie régionale et s'efforce de résoudre les crises régionales par les solutions politiques. La République islamique d'Iran continue de faire avancer son programme nucléaire pacifique, coopère avec l'Agence internationale de l'énergie atomique et n'est pas affectée par les pressions politiques et les campagnes de propagande fabriquées de toutes pièces. Alors que la République islamique d'Iran a toujours eu une coopération constructive avec l'agence viennoise, les États-Unis et le CCGP ont formulé dans ce communiqué leur soi-disant inquiétude face au développement nucléaire de l'Iran, demandant à la République islamique d'Iran de coopérer pleinement avec l'agence. On vous lisait aussi en titre, le président iranien Ebrahim Raisi et son homologue chinois Xi Jinping ont appelé à la mise en œuvre complète et effective de l'accord sur le nucléaire iranien par toutes les parties et à la levée de toutes les sanctions américaines contre Téhéran de manière véritable. Dans une déclaration conjointe publiée à l'issue de la visite d'État de 3 jours de Raisi à Pékin, les deux chefs d'État ont réaffirmé que le retrait unilatéral des États-Unis de l'accord nucléaire, officiellement connu sous le nom de Plan global d'action conjoint PGAC ou JCPOA selon le sigle anglais, était la cause profonde de l'impasse actuelle dans les négociations pour la relance de l'accord. Soulignant l'importance de lever les sanctions et de garantir les intérêts économiques de l'Iran. En tant qu'élément fondamental du PGAC, le communiqué affirme que toutes les sanctions pertinentes doivent être supprimées de manière véritable pour faciliter la mise en œuvre complète et efficace de l'accord. Il faudrait rappeler que l'Iran et la Chine ont signé un accord historique de partenariat stratégique global en 2021 au mépris des sanctions unilatérales imposées par les États-Unis contre les deux pays. L'accord documente officiellement le partenariat stratégique global sino-iranien qui avait été annoncé lors d'une visite du président chinois à Téhéran en 2016. Il définit les grandes lignes de la coopération politique, culturelle, sécuritaire, en matière de défense régionale et internationale pour les prochaines 25 années. Suite du journal, les ministres des gouvernements français, allemands, italiens et britanniques ont emboîté le pas aux États-Unis en dénonçant le fait que l'expansion des colonies prévues par Israël ne fera qu'accroître les tensions entre Israéliens et Palestiniens. Dans un communiqué de presse conjoint, les ministres des Affaires étrangères des pays susmentionnés se sont opposés à l'approbation par Israël de nouveaux projets de construction illégaux de 10 000 nouveaux logements en Cisjordanie occupée. Nous, les ministres des Affaires étrangères de la France, de l'Allemagne et de l'Italie, et le ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni et le secrétaire d'État des États-Unis, sommes profondément troublés par l'annonce faite par le gouvernement israélien de l'avancement de près de 10 000 unités de peuplement et de son intention d'entamer un processus de normalisation de 9 avant-postes qui étaient auparavant considérés comme illégaux en vertu de la loi israélienne. Nous nous opposons fermement à ces actions unilatérales qui ne serviront qu'à exacerber les tensions entre Israéliens et Palestiniens et à saper les efforts pour parvenir à une solution négociée à 2 États. Une nouvelle résolution du Conseil de sécurité a appelé le régime israélien à mettre fin immédiatement et complètement à ses activités d'expansion des colonies dans les territoires palestiniens occupés dans un nouveau coup porté au complot du cabinet extrémiste israélien visant à voler davantage de terres palestiniennes. L'actualité est aussi la guerre d'Ukraine. Les médias sionistes ont rapporté jeudi que Tel Aviv avait promis de livrer prochainement à l'Ukraine un système d'alerte contre les menaces et frappes aériennes. Selon Haaretz, la rencontre entre le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, et le ministre des Affaires étrangères du régime israélien, Eli Cohen, a duré 1 heure, au cours de laquelle a été traitée aussi l'aide apportée par Tel Aviv à Kiev. Selon l'article, Cohen a promis à Zelensky que Tel Aviv travaillerait au développement d'un système d'alerte contre les menaces et les frappes aériennes pour aider l'Ukraine et le fournirait à Kiev dans les 3 à 6 prochains mois. Cohen a affirmé lors de cette réunion, dixit, « Israël soutient l'indépendance et la souveraineté de l'Ukraine et nous soutiendrons le plan de paix de l'Ukraine qui sera présenté aux Nations Unies la semaine prochaine. Les deux parties ont discuté aussi de l'approfondissement de la coopération bilatérale contre la prétendue menace iranienne sur la scène internationale et ils ont mentionné l'Iran comme un ennemi commun de Tel Aviv et de Kiev, cite l'article du journal israélien. D'autres sources sionistes ont rapporté que Cohen et Zelensky avaient discuté des méthodes de coopération contre l'Iran sur la scène internationale lors de cette réunion qui est considérée comme le premier voyage à l'étranger du ministre des Affaires étrangères israélien. Au cours des mois passés, l'Ukraine et les pays occidentaux ont prétendu que la République islamique d'Iran avait envoyé des drones en Russie dans le but qu'ils soient utilisés contre l'Ukraine. Il est utile de rappeler que le porte-parole de la diplomatie iranienne a quant à lui répondu à maintes reprises à ces accusations sans fondement en soulignant que Téhéran n'avait livré dans cette guerre aucun équipement militaire à l'une ou à l'autre partie belligérante. Et pour fermer le journal, sachez qu'une cinquième grève nationale contre le projet de réforme des retraites impopulaire d'Emmanuel Macron, qui consiste à relever l'âge de la retraite de 62 à 64 ans, s'est poursuivie en France ce jeudi alors que l'opposition continuait de s'y opposer au Parlement français. Le journal français Le Monde a écrit que la cinquième grève nationale mettrait plus de pression sur le gouvernement français et conduirait à des manifestations plus généralisées le 7 mars à venir. C'était le journal. Merci à vous de l'avoir suivi et restez à l'écoute de notre commentaire politique. Anniversaire de la révolution islamique, Nasrallah salue la participation massive des Iraniens. Syed Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah libanais, a salué la participation massive des Iraniens aux rassemblements nationaux pour célébrer le 44e anniversaire de la victoire de la révolution islamique, déclarant que la présence épique du peuple a donné une réponse appropriée aux fausses spéculations selon lesquelles l'OTAN était révolue pour l'establishment islamique. Syed Hassan Nasrallah a fait ses remarques lors d'un discours télévisé jeudi, lors d'une cérémonie à Beyrouth, la capitale libanaise, en commémoration des commandants militaires martyrs du Hezbollah. Les médias occidentaux ne prêtent aucune attention aux marches de plusieurs millions de personnes à travers l'Iran à l'occasion de l'anniversaire de la victoire de la révolution islamique de 1979 et se concentrent plutôt sur les émeutes qui ont attiré un petit nombre de personnes et cherchent à les provoquer, a-t-il déclaré. Le secrétaire général du Hezbollah libanais a également ajouté, dixit, « Tous ceux qui parient sur la chute de l'establishment islamique iranien, en particulier le régime sioniste, se trompent dans leurs calculs et doivent se rappeler que leur rêve ne se réalisera jamais. Les derniers rassemblements du 22 Bahman à travers le pays marquant l'anniversaire de la victoire de la révolution ont donné une réponse forte et appropriée aux ennemis et à ceux qui prétendaient faussement que les jours de l'establishment islamique étaient comptés. » Nasrallah a noté que les États-Unis développaient une série de complots depuis 2019 afin de ramener le Liban sous leur contrôle et leur domination. Cependant, ils ont échoué. Il a souligné que la libération des territoires libanais occupés et l'accord historique visant à mettre fin à un différend frontalier maritime de longue date avec Israël dans la mer de Méditerranée, riche en gaz, figurait parmi les réalisations exceptionnelles contre le régime occupant israélien. Nasrallah a également rendu hommage aux commandants et combattants martyrs du Hezbollah, déclarant qu'ils sont restés fidèles au mouvement de résistance libanais malgré toutes les difficultés et les épreuves qu'ils ont connues. Le secrétaire général du Hezbollah a poursuivi en citant un discours de l'ancien président américain Barack Obama, dans lequel il parlait de contrôler l'opinion publique d'un pays en trompant cette nation, avertissant que l'actuelle administration américaine de Joe Biden lui emboîtait le pas. Obama avait précisé dans un discours que Washington utiliserait divers outils pour renverser un certain gouvernement, cherchant sans relâche à conduire la nation au désespoir et à éroder sa confiance en gouvernement en place, a déclaré Nasrallah. L'administration américaine a misé sur la corruption rampante des gouvernements précédents au Liban pour faire avancer ses complots. Nous devons mettre en place des initiatives et coopérer les uns avec les autres afin de contrecarrer les stratagèmes visant à plonger le Liban dans le chaos et à manipuler l'opinion publique, a-t-il noté. Nasrallah a également exhorté diverses factions politiques libanaises à mettre de côté leurs divergences et à parvenir à un consensus sur l'élection d'un nouveau chef d'État pour succéder à l'ancien président Michel Aoun, dont le mandat s'est terminé le 31 octobre de l'année dernière. Le secrétaire général du Hezbollah a poursuivi en décrivant le statu quo sur les terres occupées par Israël comme critique et sans précédent, soulignant que l'administration israélienne d'extrême droite, dirigée par le premier ministre Benjamin Netanyahou, intensifie les tensions et pousse les choses vers une confrontation avec les Palestiniens. Nasrallah a affirmé que de nombreux historiens israéliens avaient averti que l'entité cesserait d'exister avant le 80e anniversaire de sa création en 1948.
À tous. Le sujet du jour étant la visite de M. Raisi en Chine et en personne. M. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, a donc accueilli le président iranien cette semaine. C'est le sujet donc de notre débat. Pour cela, nous avons préparé donc notre reportage. Je vous le propose maintenant pour par la suite faire venir nos invités. Tout de suite, le reportage.
L'Iran et la Chine ont signé 20 documents de coopération. Dans la matinée du mardi 14 février, le président iranien Ebrahim Raisi est arrivé à Pékin à la tête d'une délégation économique et politique de haut rang. 20 notes de coopération ont été signées lundi 14 février entre de hauts responsables iraniens et chinois en présence des présidents des deux pays. Ces documents de coopération couvrent divers domaines, dont la gestion des crises, le tourisme, la télécommunication et la TI, l'environnement, le commerce international, la propriété intellectuelle, l'agriculture, l'exportation, la santé, les médias, le sport et le patrimoine culturel. Le président iranien, qui s'est rendu en Chine à l'invitation officielle de son homologue Xi Jinping, est arrivé à l'aéroport international de Pékin et a été accueilli par le ministre chinois de la Culture et du Tourisme. Ebrahim Raisi a été reçu officiellement par le président chinois Xi Jinping sur les locaux du Congrès de la Chine. Pékin cherche depuis longtemps à renforcer ses liens avec Téhéran. Le président Xi Jinping avait décrit l'Iran comme le principal partenaire de la Chine au Moyen-Orient lors d'une visite en Iran en 2016. D'ailleurs, Pékin entend jouer un rôle constructif dans le renforcement de l'unité et de la coopération avec des pays du Moyen-Orient ainsi que dans la promotion de la sécurité et de la stabilité dans la région, a souligné le porte-parole de la diplomatie chinoise Wang Wenbin lors d'un point de presse lundi. Pour rappel, le président Raisi est accompagné des ministres des Affaires étrangères, de l'économie, de la route et des transports, du pétrole, de l'industrie, des mines et du commerce et de l'agriculture. Sa délégation comprend également le gouverneur de la Banque centrale d'Iran et Ali Bareri, qui est à la fois le vice-ministre iranien des Affaires étrangères chargé des affaires politiques et le principal négociateur du pays dans les pourparlers sur la levée des sanctions avec d'autres signataires de l'accord nucléaire iranien de 2015. La visite d'Ora ici en Chine compte son 10e voyage à l'étranger depuis sa prise de fonction il y a 1 an et demi.
Nous revoilà donc sur nos plateaux. Nos invités, tout d'abord, donc premier invité, Monsieur Bernard Cornu, expert en géopolitique. Bonjour, Monsieur Bernard Cornu, et bienvenue parmi nous.
Bonjour.
Alors, toujours et un plaisir d'avoir la possibilité d'avoir votre expertise. Notre deuxième invité, Monsieur Luc Michel, l'un de nos experts réguliers. Bonjour, Monsieur Luc Michel.
Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. Bonjour à Monsieur Cornu.
Alors, le sujet d'aujourd'hui fait plaisir parce que conclut finalement plusieurs années de relations diplomatiques et d'accords. C'est la relation entre la Chine et l'Iran qui ne date pas d'aujourd'hui, mais qui a finalement, on peut dire, avoir eu les premiers résultats avec des documents signés. Plus de 20 documents ont été signés, des accords entre donc l'Iran et la Chine. Une situation qui avait commencé donc avant le corona, Monsieur Cornu. Cette venue de Monsieur Raisi en Chine est finalement la conclusion de toutes les relations diplomatiques entre la Chine et l'Iran depuis, on va dire, ces 5 dernières années, notamment après les dernières sanctions et la volonté des Américains de rendre finalement l'Iran seul au niveau international. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut conclure la situation de cette semaine?
Oui, tout à fait. C'est un grand pas, un heureux pas vers la consolidation d'un monde multipolaire et d'un nouvel arrangement au sein, par exemple, de l'Organisation de coopération de Shanghai, à laquelle l'Iran s'est rallié récemment, et d'un pôle asiatique qui complète les puissances existantes que sont l'Union européenne. Malgré tous les problèmes qu'elle vit maintenant, elle est une grande puissance économique et politique, même si elle a trop de soumission au fait aux États-Unis, et le pôle important de l'Amérique du Nord avec les États-Unis et le Canada. Donc tout ceci est un grand pas vers la consolidation d'un monde multipolaire et qui signe la fin du monde unipolaire, hégémonique, avec l'hégémonie des Américains. Et aussi, je pense qu'il y a, vu la présence du patron de la Banque mondiale d'Iran, de la Banque centrale d'Iran, je pense qu'il y a eu des discussions aussi pour arranger du commerce dans d'autres monnaies que le dollar, comme d'ailleurs la Chine a pris l'initiative déjà depuis quelque temps, notamment pour les échanges d'une partie de son pétrole avec l'Arabie saoudite.
Merci, Monsieur Cornu. Alors, il est vrai que le président Raisi a bien indiqué sa volonté d'aller du côté donc est de l'Asie, que eux représentaient l'Ouest, et que donc la Chine, notamment en pays important et l'un des plus grands pays d'Asie de l'Ouest, en fait de l'Est, donc de se rendre plus proche. Monsieur Luc Michel, on sait votre plaisir de voir la multipolarisation en train de s'installer. Alors, l'une des informations que Monsieur Cornu n'a pas partagée, c'est que l'Union européenne a décidé donc de dissoudre l'INSTEX, qui est, si vous, on le rappelle à nos auditeurs, un système économique et bancaire qui avait voulu être mis en place après les sanctions américaines pour permettre une continuité au niveau des échanges commerciaux entre l'Europe et l'Iran, un système qui a été complètement qui a été caduque puisque n'a jamais fonctionné. Monsieur Luc Michel, un mot, donc cette rencontre, ce voyage de Monsieur Raisi, qui est donc, comme Monsieur Cornu le dit, une conclusion de ces relations diplomatiques depuis les sanctions.
Et moi, je me réjouis surtout de voir un bloqueur asiatique se constituer face à l'Occident. Téhéran émerge définitivement comme la troisième capitale de l'Eurasie en marche avec Moscou et Pékin. Il y a une nature profonde. Qu'est-ce qui unit Moscou, Pékin et Téhéran? C'est que ce sont trois vieilles civilisations, ce sont trois vieux empires, trois vieilles cultures, et qui ont chacun ensemble plusieurs milliers d'années de civilisation commune. Contrairement aux États-Unis qui sont une civilisation sans passé, le philosophe anglais disait que les États-Unis étaient passés de la décadence à la barbarie sans être passés par le stade de la civilisation. C'est cela que représente le bloc de l'Est.
Un mot sur le fait que l'INSTEX va être dissous cette semaine. Est-ce que certains analystes estiment que c'est une preuve de l'impuissance des Européens et de surtout leur non-souveraineté?
Écoutez, l'Europe aujourd'hui, ce qu'on appelle l'Europe, qui est en fait la petite Europe croupion de Bruxelles, c'est une colonie yankee, une dépendance vassalisée des États-Unis. Ce projet géopolitique, c'est un projet géopolitique bordé. Depuis qu'au traité de Maastricht, l'Europe a confié sa défense à l'OTAN. C'est donc l'Europe qui est en train lentement de sortir de l'histoire et d'être impuissante, évidemment, face à l'émergence de puissances mondiales que sont d'une part le bloc de l'Est, d'autre part le bloc américain.
Merci Monsieur Luc Michel. Monsieur Cornu, alors on a entendu dans le reportage le fait qu'il y ait, donc vous-même vous l'avez indiqué, hein, le responsable du ministère de bancaire ici en Iran. Alors est-ce qu'on va avoir droit à la même situation qu'avec la Russie, c'est-à-dire un rapport direct entre deux banques, une iranienne, une chinoise, puisque c'est ce qui se passe avec la Russie, qui ont estimé que la mise en place de ce système bancaire, donc le SWIFT version russo-iranienne, se mettra en place d'ici fin 2023, si on est optimiste, et 2024, une certitude. Vous pensez que pour la Chine, on va aller vers ce même genre de rapport?
Mais je pense que oui, parce que l'hégémonie américaine dans le domaine de la finance, des sanctions financières, est assez facile à mettre en place parce que pour l'instant, il y a un monopole de la société SWIFT, qui est une société pour les échanges, disons, financiers entre banques à l'échelle de l'ensemble du monde et qui a en fait un monopole de fait parce qu'elle a été créée longtemps et que le commerce en dollars et les échanges financiers en dollars qui sont très, très nombreux chaque jour passent tous par ce système-là et que donc les Américains, sur décision politique, peuvent couper l'accès des banques à ce système-là et donc les empêcher, les gêner, disons, pour faire des transactions financières. Donc, mais enfin, ceci, c'est un but de cette monopole qui a permis que des systèmes parallèles sont évoqués.
Excusez-moi, Monsieur Cornu, vous dites gêner, on arrive quand même à des situations comme en Syrie, où il y a des gros problèmes économiques qui font que, certes, au Yémen également, où la situation est tellement catastrophique qu'on en arrive à ne pas retrouver des médicaments. C'est plus que gêner, puisque l'Iran accuse, à cause des sanctions, la mort de patients ayant eu des maladies rares dont les médicaments n'étaient trouvables qu'à l'extérieur de l'Iran, par exemple.
Non, bien sûr, quand je dis gêner, c'est presque faire un obstacle très difficile et qui a des conséquences très dures, très, très dommageables pour les pays qui sont sous ces sanctions-là. Comme vous avez cité le Yémen, l'Iran, ça a été un moment d'autres pays d'Amérique latine. Et ceci est un abus, c'est sûr, mais qui n'est pas assez dénoncé par l'Europe. Et cet abus pousse finalement des pays puissants comme la Russie, comme l'Iran, comme la Chine, à développer petit à petit des modes de transaction entre pays par des accords bilatéraux et à utiliser surtout de plus en plus d'autres monnaies que le dollar pour leurs transactions. C'est vrai que les Américains abusent de lois qui prétendent extraterritoriales, c'est-à-dire avoir une influence, être applicable même dans des territoires à l'étranger hors des États-Unis, comme ils l'ont fait même pour des puissantes banques françaises qui avaient fait des transactions, par exemple, avec le Soudan, et elles ont été punies, elles ont payé des amendes. Et ces banques-là, face à la puissance hégémonique américaine, ces banques françaises ou européennes ne acceptent les conditions américaines pour ne pas se voir privées de toute capacité de commerce dans d'autres pays. Donc c'est une soumission totale actuelle à ce système dominant financier américain. Mais cet abus, justement, pousse les autres pays à créer des systèmes alternatifs. Ça prendra un peu de temps, ça nécessite des moyens, mais je pense que ça va aussi vers un monde unipolaire, multipolaire, au lieu d'avoir ce monopole sur le système SWIFT.
Merci Monsieur Cornu. Monsieur Luc Michel, nous entendons depuis le début de l'année 2023 le fait que le dollar risque de s'effondrer, notamment dû à la dette que possède ce pays, comme la France d'ailleurs. Chaque pays a une dette à payer. On dit que la dette américaine ainsi qu'européenne est extrêmement importante, voire catastrophique, et qui va directement dévaloriser donc le dollar et donc forcément l'euro. Est-ce que, avec ce genre de relations bancaires que veut mettre en place la Russie et la Chine, qui vont certainement pas être uniquement prédestinées rien qu'à l'Iran, certainement d'autres pays voudront se rajouter à ces nouveaux systèmes, que va être l'avenir donc des rapports commerciaux avec les États-Unis et avec l'Europe?
Écoutez, la politique américaine, c'est une politique hégémonique qui était issue à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est une politique qui a des conséquences criminelles. L'histoire retiendra que les États-Unis ont sapé eux-mêmes les fondements de leur système monétaire international, notamment en voulant en exclure l'Iran et la Russie. Aujourd'hui, le monde cherche d'autres mécanismes, en particulier les manipulations du système SWIFT. Évidemment, on a vu les Américains détruire eux-mêmes les fondements de leur système. Aujourd'hui, les peuples de la Terre ne veulent plus de cette domination du dollar. L'heure est à la dédollarisation du monde.
Merci, Monsieur Luc Michel. Monsieur Cornu, j'ai une question à vous poser concernant donc le côté optimiste de la situation, sachant que l'Iran subit une inflation extrêmement importante, surtout depuis les dernières sanctions. Est-ce que vous pensez donc que l'Iran, grâce au fait que d'autres monnaies vont arriver sur le territoire, l'inflation va baisser, notamment parce qu'elle possède des matières premières extrêmement précieuses? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un impact pour la vie de toujours des Iraniens? Et donc ça va permettre de permettre aux Iraniens de se sentir plus soudés à leur gouvernement?
C'est possible, mais c'est toujours difficile de prévoir l'avenir. C'est sûr que le renforcement du commerce bilatéral va améliorer la situation de l'Iran. Donc cela aura sans doute à terme une répercussion sur le pouvoir d'achat des Iraniens. De toute façon, la Chine est un très grand producteur de produits de toutes sortes qui inondent les marchés mondiaux et qui aussi sont dans les marchés de l'Iran. Et donc, je pense que ce sera un effet positif, mais il est difficile de le quantifier, de voir exactement. Mais tout accord bilatéral de l'Iran avec d'autres pays est bénéfique pour sa situation économique et sociale. Donc pour desserrer l'étau des sanctions illégales qu'imposent les Américains suite à la propagande notamment de l'État israélien sur le programme nucléaire iranien qui est entièrement civil.
Merci. Et la mise en application de ces documents signés par M. Raisi et M. Xi Jinping, vous pensez qu'ils vont mettre combien de temps pour être mis en application? Parce que j'imagine, et je pense que les auditeurs imaginent que ça prendra un certain temps. On parle sur combien d'années, là?
Je pense qu'il y a des projets qui peuvent être réalisés rapidement. L'Iran a comme voisin à l'est le Pakistan, qui a une petite frontière par un col à haute altitude, avec la Chine. Donc la présence du ministre iranien chargé des routes est sans doute un signe qu'il y a des projets de routes intercontinentales ou d'amélioration de ces routes, parce qu'il y a déjà des passages, mais il faut sans doute les renforcer, peut-être créer des tunnels pour que les passages soient des altitudes plus basses, pour faciliter le commerce de camions. Il y a bien sûr tous les projets de chemin de fer qui sont prévus dans le projet sponsorisé et en grande partie financé par la Chine, ce qu'on appelle ici en Occident les routes de la soie, qui sont, disons, une création d'interconnexion des réseaux ferroviaires et maritimes par le développement de certains ports dans tout ce domaine-là entre l'Asie et l'Europe.
Merci, Monsieur Cornu. Monsieur Luc Michel, est-ce que vous êtes d'accord par l'expertise, Monsieur Cornu? Que pensez-vous donc de l'activation donc de ces accords? Vous donnez à quelle année, on va dire, est-ce que ce serait plutôt 2024 ou plutôt vers 2025 où on pourra voir donc les conséquences de ces accords?
Je pense que ça ira rapidement parce qu'il y a une dynamique actuellement qui est menée par Moscou, Pékin et Téhéran qui est de dégager le monde du filet de contrôle du dollar. Donc je pense que les choses seront assez rapidement parce qu'il faut respecter cette dynamique. Et elle est portée par le nouveau mandat qu'a reçu Xi Jinping l'année passée, qui est de contrôler la politique chinoise pour la prochaine décennie.
D'accord. Et donc, vous pensez, comme M. Cornu, que ça va se passer par les chemins également de la route de la soie, que toutes ces facilités vont être les premiers travaux à mettre en mise en avant par les deux pays ?
Oui, parce qu'évidemment, c'est le grand projet géopolitique de la Chine et c'est cela qui prime pour Xi Jinping.
Merci à M. Luc Michel. En conclusion, que vous pensez-vous donc des différents mouvements qui sont passés pour l'Iran cette année, entre 2022-2023 ? Il y a eu des riches rebondissements, notamment l'aspect des accords de Shanghai, le BRICS qui disent envisager la venue de nouveaux membres, l'Iran qui passe plus de temps en Asie de l'Est, on ne parle pas seulement de la Chine, mais de tous ses voisins de l'Asie de l'Est. Qu'est-ce que vous pensez de. Et également, il tend également vers l'Afrique, vers le continent africain. Qu'est-ce que vous pensez donc des démarches iraniennes ? Est-ce qu'elles sont constructives ? Est-ce que vous pensez que grâce à ça, elle va vraiment pouvoir permettre à mettre la paix, comme elle le dit depuis le début, comme le pays le dit depuis le début, concernant le Moyen-Orient ?
Écoutez, j'ai pronostiqué dès 2015 l'émergence de Téhéran comme la troisième grande puissance eurasiatique, c'est à cela que nous assistons maintenant. Évidemment, il y a une dynamique géopolitique qui porte l'Iran. L'Iran n'est plus l'Iran de 2015, qui est un pays isolé et qu'on avait tenté d'isoler à Genève. C'est une grande puissance qui marche en avant avec Pékin, avec Moscou, mais aussi avec l'Afrique. C'est donc cette émergence de l'Iran, mais également le rapprochement de l'Iran avec d'autres pays du Proche-Orient, notamment la fin du fossé qui séparait l'Iran de l'Arabie saoudite et qui est illustré par l'évolution du marché du gaz. C'est donc évidemment une période faste pour l'Iran et qui va avoir des conséquences, notamment la mise en ayant de la politique d'isolement américaine menée depuis le départ des Américains des accords de Genève.
Merci, M. Luc Michel. À votre tour, M. Bernard Cornu, je vous propose donc de conclure le débat. Qu'est-ce que vous pensez donc des dernières démarches 2022-2023 de l'Iran ? Une démarche extrêmement active, bon, qui n'a pas commencé exactement en 2022, mais dont les aboutissements ont abouti donc en 2022-2023. Et également son côté de tendre vers l'Afrique, puisque l'Iran a proposé à plusieurs pays africains de partager ses connaissances en matière de défense et de protection, étant donné que l'Iran a une grande expérience contre les terroristes à cause de la guerre en Irak et en Syrie. Que pensez-vous de la démarche iranienne ? Est-ce que c'est une démarche constructive pour l'Iran et pour le Moyen-Orient ?
C'est constructif pour l'Iran et pour l'ensemble même de la planète. On peut rappeler ici que le 19 juillet dernier, à Téhéran, le président Raisi a réuni le président Poutine et le président Erdogan. Et à la demande de Poutine, Gazprom a signé un accord pour un investissement de 40 milliards de dollars dans le développement des champs et des exportations, enfin des gazoducs en Iran. La Chine, je pense, dans cet accord d'hier, aussi doit prévoir sans doute avec l'Iran d'exporter le gaz par une voie sud, par la côte sud du Golfe, et vers le Pakistan qui a besoin de gaz, et sans doute aussi à travers le Pakistan pour du pétrole et du gaz vers d'autres pays de la région asiatique. Donc je suis moins au courant des efforts de l'Iran en Afrique, où il y a beaucoup de compétition, beaucoup la présence aussi de Turquie, qui a développé des ambassades, des réseaux de coopération, des projets de coopération par son agence de coopération. Mais c'est vrai que la qualité de la science et de la technologie en Iran et d'une partie de son industrie, notamment, on a vu récemment pour les drones, pour les missiles, permet effectivement d'attirer des pays africains qui ont des problèmes de défense vers disons, une coopération technologique et scientifique et industrielle avec l'Iran.
Merci, Monsieur Cornu. Monsieur Luc Michel, vous voulez répondre quelque chose aux conclusions de Monsieur Cornu ?
Oui, je pense qu'il a tout à fait raison. Justement, il y a une dynamique qui porte les trois capitales eurasiatiques. Moscou-Pékin et Téhéran. Mais il faut souligner que ce qui unit surtout les trois capitales, c'est une idéologie positive, l'anti-américaine. Les États-Unis apparaissent de plus en plus aujourd'hui comme les ennemis du monde entier. C'est contre cela que réagissent Moscou, Pékin, Téhéran. Et c'est les Américains eux-mêmes qui ont uni leurs adversaires.
Merci, Monsieur Luc Michel. Merci, Monsieur Cornu. À tous les deux, je vous remercie d'avoir partagé votre expertise donc sur le sujet de la semaine, la visite de Monsieur Reissi en Chine et la diplomatie qui a été mise en jeu depuis plus de 5 ans. Moi, je vous dis à bientôt pour un autre sujet du débat, ici à partir de la capitale iranienne, Téhéran. Au revoir.
Les médias occidentaux ont fait silence radio après que le journaliste Seymour Hersh, lauréat du prix Pulitzer, a révélé que la marine américaine était derrière l'explosion du pipeline Nord Stream. En septembre 2022, plusieurs explosions se sont produites dans les gazoducs Nord Stream 1 et 2. Suite aux attentats, il y a eu des fuites de gaz autour des pipelines qui ont été construits pour transporter le gaz naturel de la Russie vers l'Allemagne via la mer Baltique.
Bon, dès que ça s'est passé en septembre, moi-même j'ai pensé, écrit que ce n'était pas la Russie comme c'était un média l'ont supposé parce qu'elle n'avait aucun intérêt et que c'était donc des gens du bloc en opposition à la Russie, donc autour de l'OTAN. Mais personnellement, je pense que plutôt que directement les Américains, je pense que les Américains l'ont préparé. Ont tenu la main de l'Ukraine pour appuyer sur le bouton et faire exploser les explosifs qui avaient été placés peut-être avant, comme on le suggère assez facilement, lors d'opérations militaires dans la Baltique. Et ceci afin que les États-Unis ne puissent pas être accusés directement d'avoir fait cet attentat, en laissant donc la responsabilité première à l'Ukraine, qui en avait donc la légitimité par le prétexte qu'elle avait été agressée, donc elle avait droit de se défendre. Moi-même, j'ai vécu des guerres au Moyen-Orient où effectivement, parfois, les Russes aidaient un pays à se défendre en l'aidant à appuyer sur le bouton, c'est-à-dire que la main d'un officier d'un pays en guerre était sur le bouton, mais par-dessus sa main, il y avait un officier russe qui l'aidait à choisir le bon moment, la bonne trajectoire, disons, à être le plus efficace possible. Donc je pense que c'est la logique de la guerre, c'est que si ça avait été les États-Unis directement, au cas où les Russes ou n'importe qui puissent le prouver, serait fait un conflit venu en justice et les Américains l'auraient perdu parce qu'ils n'avaient aucune légitimité, l'Ukraine n'étant pas un pays de l'OTAN, à commettre un tel attentat terroriste. Donc je pense que la vérité, en toute logique, je n'ai pas d'informations particulières, mais que c'est l'Ukraine qui a fait cela, mais aidée par les Américains et ou la Grande-Bretagne. En préparant cet attentat, en donnant les moyens à l'Ukraine, mais en n'assumant pas la responsabilité directe, en laissant les Ukrainiens déclencher le mécanisme. Ben, c'est d'abord la perte d'un investissement considérable, non seulement de la Russie, mais de l'Allemagne et de la France aussi, qui avait cofinancé cet investissement. Donc c'est la perte d'un investissement. Et donc en fait, tous les actionnaires seraient enclins à acter en justice, sauf si c'est l'Ukraine qui était le déclencheur objectif de cet attentat terroriste, sous le prétexte de la légitime défense. Et d'autre part, c'est une interruption des livraisons de gaz très importantes avec une forte capacité envers l'Allemagne et à travers l'Allemagne l'Europe par les réseaux de distribution existants. Et donc ça renforce la nécessité pour les pays européens dépendants du gaz russe d'acheter du gaz liquéfié aux États-Unis, qui sont effectivement empressés de le faire à un prix très élevé, au détriment de l'environnement, et aussi à partir de nouveaux contrats ou d'augmentation de contrats avec le Qatar, avec l'Algérie, avec tous les pays qui sont en capacité de produire du gaz naturel liquéfié et de le transporter. Comme on sait, en Corée notamment, il y a de la construction de méthaniers, des très grandes quantités de méthaniers qui sont des bateaux, disons, techniquement difficiles à construire parce que ce transport est dangereux, il faut sécuriser les cargaisons. Et donc, ce sont des investissements, d'ailleurs, pour ceux qui vont acheter ces méthaniers, qui ne seront pas très rentables, puisqu'il est probable que ces tuyaux de gazoduc seront réparés un jour et que les méthaniers, le commerce de gaz liquéfié, naturel liquéfié, va, disons, dès que cette guerre sera finie, que les gazoducs seront réparés, ou qu'il y ait des nouveaux gazoducs à partir des gisements très importants de l'Iran, qui sont peu difficiles à exploiter. Mais bien sûr, un gazoduc prendra quelques années à être construit pour rejoindre les réseaux existants. Donc on aura fait un gaspillage d'investissement, on aura renforcé la pollution de la mer, on aura enrichi les gaziers américains. Tout ceci est très dommage, comme la guerre d'ailleurs.
Les syndicats ont choisi ce samedi 11 février pour permettre à ceux qui n'ont pas pu répondre présents lors des trois dernières manifestations de se mobiliser contre la réforme des retraites. Pour cette quatrième journée de mobilisation, plus de 2,5 millions de manifestants se sont réunis en France selon la CGT, 963 000 selon l'intérieur. La première journée de mobilisation contre la réforme des retraites le 19 janvier réunissait 1 million de personnes selon la police, 2 millions selon les syndicats. Comment peut-on analyser cette situation?
C'est le divorce entre le régime Macron et les Français. Il y a de plus en plus de Français qui manifestent. On double chaque fois le nombre de manifestants. Le 7 février, d'ailleurs, la prochaine manifestation, ce sera donc une paralysie du pays entière qui aura lieu le 7 mars, puisque le gouvernement ne veut pas entendre. Le Parlement, où il n'y a pas de majorité, est paralysé. La France du travail est paralysée. Le problème, c'est que cette radicalisation des Français qui divorcent avec Macron sur la question des retraites, elle n'est pas écoutée par le président. Celui-ci fait son dernier mandat. Il ne doit plus chercher à être réélu. Et donc, il se moque des Français. Il va appliquer le programme pour lequel les réseaux américains l'ont désigné, c'est-à-dire la liquidation du modèle social français. C'est cela. Les Français manifestent. Les Français sont en colère, mais ils ne seront pas écoutés par l'Élysée. Parce que Macron lui-même, d'une part, ne doit plus faire face aux élections et a abandonné ses propres députés. La majorité commence d'ailleurs à être abandonnée par certains de ceux-ci. Je pense qu'on va aller de plus en plus loin dans la paralysie du pays. Mais je pense que le projet de réforme des retraites sera quand même adopté, parce que Macron ne reculera pas et qu'il n'a rien à peine. On a donné les clés de l'Élysée à quelqu'un qui n'a de compte à rendre à personne, ni aux Français, ni à son propre parti, ni à ses propres députés. C'est la fin de la démocratie. Moi, je suis très pessimiste. Je ne crois pas qu'il y aura de changement, d'autant plus que Macron a une complicité. C'est celle des néo-fascistes de restaurants, du renouveau national, l'Extrême National, puisque ceux-ci au Parlement, évidemment, font un profil bas et aident dans la pratique à adopter le projet de loi. La seule opposition française actuellement, ce sont les gens de gauche et d'extrême gauche et les syndicats, mais ce n'est pas suffisant, d'autant plus que la France a une particularité. C'est que plus de 60% des Français ne sont pas allés voter aux dernières législatives, la dernière présidentielle, et se sont tenus en dehors de la politique politicienne. Dès lors, la France mobilisée, c'est une minorité, et la France de Macron elle-même qui veut changer le régime des retraites, c'est une minorité. Les Français, évidemment, ont refusé ce système. C'est cela qu'il faut constater. Paralysie de la démocratie et négation de la démocratie française.
Mm-hmm.